Et à tous, et c'est sur ce rythme entraînant que vous retrouvez quasiment chaque jour la locale, le direct d'info local qui donne la parole aux habitantes et aux habitants du territoire sur Radio BLV du mardi au jeudi. Vous êtes avec Karina et avec Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour Karina.
Et puis nous sommes aussi avec Nils, notre stagiaire de 3e. Bonjour Nils.
Bonjour Karina.
Et nous avons aussi deux invités que nous allons présenter tout de suite. Sylvie, au sommaire de ce mercredi 24 février.
Eh bien, on a, comme tu l'annonçais, deux invités en studio. Julie Turcot, éducatrice spécialisée. Bonjour Julie.
Bonjour.
Quentin Darboux, infirmier. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Qui travaillent tous deux pour le CEMIS, le service d'équipe mobile d'intervention sociale et de soins de la Croix-Rouge. Je l'ai pas mal descendu, ça va. Mathilde Deves suivra l'entretien qu'on aura avec Julie et Quentin. Mathilde Deves, qui est une scientifique qui a créé Pousse de Science pour transmettre sa passion. Et on terminera cette locale avec Marie Isserel de l'association Village Vivant qui nous parlera d'immobilier solidaire, lien social et retour de l'humain.
Et on commence donc avec vous deux, Julie et Quentin. Peut-être pour commencer, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le CEMIS, pourrez-vous le présenter ?
Oui, du coup, le CEMIS, ça veut dire donc, comme l'a dit la dame qui nous a
fait
Sylvie, autant pour moi, j'avais oublié. C'est-à-dire Service d'équipe mobile d'intervention sociale et de soins. C'est un acronyme pour dire simplement qu'on effectue des maraudes de rue à la rencontre des personnes dans une dynamique d'aller vers des personnes en situation d'exclusion et de précarité et de subvenir à leurs demandes, de les faire émerger et voilà, avec des travailleurs sociaux et des infirmiers.
Donc justement là, on a la représentation en face de nous d'un travailleur social et non, un infirmier et une travailleuse
sociale.
C'est ça. Sociale.
Je suis infirmier et Julie est
EduxP.
Voilà, EduxP. Et du coup, en fait, la force de notre service, c'est qu'on travaille en binôme. Donc toujours avec une équipe pluriprofessionnelle et l'objectif de notre service c'est de pouvoir aller à la rencontre, comme le disait Quentin, des personnes qui sont donc sur l'espace public, de pouvoir créer un lien social, le maintenir et puis également faire émerger une demande et, en fonction de la situation de la personne, parce que c'est des personnes qui sont souvent dans le non-recours. Et puis, par la suite, on essaye de les orienter et de les accompagner. Donc, ça peut être un accompagnement vers le soin, vers le logement ou vers le droit commun. Et on fait tout ça, du coup, avec les différents partenaires et dispositifs qui sont sur le territoire.
Donc, ça ressemble à quoi, concrètement, votre quotidien ?
Notre quotidien, on essaye en tout cas de faire au moins une fois par jour, d'une durée à peu près de 2 heures, des maraudes. Donc dans les rues du centre-ville de Valence. On va rencontrer des personnes du coup, en situation d'exclusion. On va partager un moment avec eux, réaliser des entretiens et faire émerger des demandes, comme on le disait. Ça permet de créer du lien, de créer un lien de confiance. Et une fois que ce lien de confiance est créé, on peut commencer à essayer d'aller un peu plus loin et à aborder des sujets d'accès aux droits, par exemple, ou à la santé, les accompagner dans leur projet.
Et ces personnes dont vous parlez, est-ce que c'est les personnes qui vivent dans la rue ou pas seulement ?
Ça peut être des personnes qui vivent dans la rue, mais c'est aussi des personnes qui vivent en appartement et qui sont un petit peu, on va dire, reclus, retranchés et qui ont des difficultés de dettes, par exemple, dans leur logement, qui vont être expulsés. ou qui ont besoin de liens sociaux.
Oui, en fait, on a un public assez large, souvent, et donc c'est des personnes qui sont en situation de précarité et ou d'exclusion. La majorité du temps, c'est au regard du logement. Donc, on va accompagner des personnes, comme le disait Quentin, qui sont communément appelées des personnes SDF. Mais du coup, on accompagne aussi des gens qui sont hébergés chez tiers, qui sont pris en charge par des personnes, par des structures, de l'aide sociale. Notamment, on travaille beaucoup avec le 115, qui est le numéro d'appel gratuit pour les personnes sans abri. Et puis, du coup, ça peut être des personnes qui sont hospitalisées et qui sont sortantes, qui se retrouvent sans solution d'hébergement. On travaille également avec des personnes qui sont sortantes de prison. Donc, depuis peu, on a la chance de pouvoir travailler en partenariat avec le SIAO. Enfin, du coup, c'est un service qui se charge d'aider les personnes et de pouvoir les mettre à l'abri si besoin. Et du coup, on peut intervenir en prison pour rencontrer les personnes qui sont sortantes et qui se retrouvent sans solution d'hébergement à la sortie.
Donc, ce sont les structures quand même qui vous contactent,
oui,
et qui vous alertent.
Nous, on travaille en fait de deux manières. La première, comme le disait Quentin, on fait des maraudes. Donc là, on va à la rencontre des personnes qui se trouveraient sur l'espace public. Et ensuite, on travaille à partir de signalements. De signalements faits par le 115 ou faits par des partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Par des signalements citoyens, c'est-à-dire que toute personne qui rencontre une personne qui a besoin d'aide peut nous contacter et du coup ensuite on essaye d'accompagner la personne du mieux possible. Et puis il y a également des personnes qui nous appellent eux-mêmes parce qu'ils ont eu notre numéro par une connaissance ou parce qu'ils l'ont cherché tout bêtement sur Internet.
Ou des personnes qu'on a déjà accompagnées.
Oui.
Ça peut être aussi l'hôpital qui nous contacte, ça peut être aussi les centres médico-sociaux. On a un panel très large de partenaires, ce qui permet d'avoir vraiment plusieurs possibilités de signalement différents.
Et sur Valence, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cette forte précarité ?
En moyenne, je pense qu'on peut dire qu'on accompagne ou on rencontre environ 150 personnes. Mais du coup, comme on le disait, c'est très variable. C'est pas 150 personnes qui ont pas de solution de logement, en fait. Mmh. Ça peut être des personnes qui sont donc dans les structures d'hébergement et pour qui c'est intéressant de faire un travail en lien avec les structures et du coup notre service. Ça peut être des personnes qui sont en logement autonome mais qui sont en mesure d'expulsion, comme disait Quentin. Ça peut être des personnes qui sont propriétaires de leur logement. Alors, c'est plutôt rare, mais on en a quelques-uns et qui rencontrent d'autres problématiques, notamment au regard du soin.
Donc, dans une ville comme Valence, qui est quand même relativement à taille humaine, j'imagine que vous avez un peu... vous connaissez un peu tout le monde, dans les gens dans la rue, les gens
précaires. Je pense qu'on est amené effectivement à rencontrer beaucoup de personnes et à les suivre et avoir un regard assez exhaustif des personnes qui sont en situation de précarité, mais il reste toujours des invisibles et à savoir aussi qu'il y a beaucoup de passages. Valence, c'est vraiment une ville qui est entre Lyon et Marseille. Il y a la gare qui est au milieu et du coup, c'est vrai qu'il y a du passage. Quoi. Du coup,
il y a
on est toujours amené à rencontrer de nouvelles personnes.
Il y a beaucoup de personnes en fait, qui sont débarquées du train parce qu'il faut savoir que Valenceville, c'est la première gare sur le trajet en TGV Marseille-Lyon. Et du coup, les personnes qui n'ont pas forcément payé leur ticket se font débarquer du train et c'est beaucoup comme ça qu'on les rencontre en fait.
Et par rapport à la situation sanitaire, quelles ont été les conséquences des confinements, couvre-feu, aussi toutes les mesures de précaution à prendre sur cette population-là ?
Alors, sur le premier confinement qui a eu lieu en mars, toutes les institutions ont été coupées, beaucoup d'aides ont fermé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus grand-chose pour permettre à la population de subvenir à leurs besoins primaires. Donc ça a été assez compliqué de ce point de vue-là. Au niveau du Covid, par contre, depuis que les confinements ont débuté, on n'a pas rencontré de personnes ayant eu des symptômes apparentés à ce virus.
Génial.
Par contre, du coup, le point positif, c'est qu'il y a eu une augmentation de l'offre de places d'hébergement. Et donc, on a pu mettre à l'abri des personnes
Oui, sur lesquels vous n'aviez pas de solution.
Oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et on voit que c'est également bénéfique pour les personnes, puisqu'il y a des réelles améliorations dans les situations de certaines personnes qu'on accompagne depuis longtemps, qui ont pu accéder à un hébergement. Et ça, c'est vraiment positif pour nous.
D'accéder à l'hébergement, ça permet aussi d'accéder à tous les autres droits. Parce que du coup, on a repéré les personnes. Ils ont déjà pu répondre à des besoins primaires. Et à partir de ce moment-là, on peut essayer plus facilement, enfin, on peut arriver à répondre plus facilement à des besoins secondaires d'accès aux droits.
Une fois qu'on a une boîte aux lettres, ça simplifie les choses quand même, j'imagine. Une adresse.
Surtout à un endroit où se poser le soir, oui, et pouvoir se reposer. C'est souvent ça qui est exprimé par les personnes lorsqu'on les rencontre après une, deux nuits de mise à l'abri.
C'est de pouvoir avoir pu passer une vraie nuit, oui, sans être à l'affût permanent, parce que la rue, c'est ça. C'est que tu dors jamais, en fait, véritablement. Et puis, j'imagine, l'accès aussi aux sanitaires.
Oui, ça, là, c'est un aussi, point qui a été vraiment soulevé par les personnes qu'on accompagne. Il faut savoir qu'il y a des toilettes publiques, par exemple, à Valence, qui ont dû être fermées. Et ça a été très compliqué pour les personnes accompagnées d'accéder à ces dispositifs-là.
Et pour les personnes qui, nos auditrices ou auditeurs, qui aimeraient aider ou faire quelque chose, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ?
Ce qu'elles peuvent faire, c'est si elles rencontrent une personne qui leur paraît en difficulté, c'est si elles s'en sentent le cran, c'est d'aller les rencontrer, essayer de savoir si la personne a besoin de quelque chose. Elles peuvent leur proposer d'appeler le 115, du coup c'est le numéro d'appel gratuit pour les personnes sans abri, afin d'essayer de voir s'il y a une place d'hébergement disponible sur le territoire. Ou alors, elles peuvent, si la personne le souhaite, nous contacter pour qu'on puisse rencontrer la personne si on ne la connaît pas déjà, ou si on la connaît, pouvoir nous la signaler.
Je reviens au fait sur l'accès aux soins. On sait que de plus en plus, l'accès aux soins est difficile dans notre pays. Ça peut paraître énorme de le dire, mais c'est une réalité. Et que de plus en plus de gens repoussent des échéances de soins, notamment dentaires, etc. Est-ce que vous voyez ça aussi, puisque vous êtes quand même dans l'extrême précarité, mais justement, tous ces gens qui sont, toutes ces personnes qui sont à la limite, finalement.
Alors, pour les personnes qui ont leur droit de santé, c'est compliqué, effectivement, parce que pour trouver un médecin traitant sur Valence et agglomération, c'est vraiment bouché. Par contre, on travaille beaucoup avec l'hôpital, notamment le service social de la PASS, qui, finalement, aide les personnes qui n'ont pas leur droit à pouvoir rencontrer un docteur et à créer leur droit. Donc... Et on travaille aussi avec, du coup, l'Entraide, qui est un accueil de jour sur Valence, où il y a un médecin bénévole présent 2 jours par semaine. Ça leur permet de rencontrer un médecin et d'être orienté soit sur des examens, soit sur la prise de traitement.
Et est-ce qu'on peut vous rejoindre pour faire les maraudes ?
Alors du coup, nous, au CEMIS, pour l'instant, on n'a pas de personnes bénévoles. Mais par contre, à la Croix-Rouge française, il y a l'unité locale du Grand Valence qui accueille les personnes bénévoles et qui organise des maraudes. Donc en période hiver, c'est tous les soirs, environ de 18h à 23h, 23h30. Et à ce moment-là, ils permettent de créer du lien social et puis ils font un petit peu de distribution alimentaire. Et puis, du coup, nous, professionnels du CEMIS, on intervient une fois par semaine, le jeudi soir, avec les bénévoles. Donc, ça peut être aussi un moyen de voir un petit peu ce qu'on fait à travers les maraudes bénévoles de la Croix-Rouge.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ces métiers-là ?
Alors, moi, du coup, j'ai choisi ce métier-là parce que je voulais travailler avec les personnes. Et j'étais vraiment jeune, hein, j'étais encore au lycée, je me suis un petit peu renseignée sur les métiers du relationnel. J'ai découvert le métier d'éducateur un petit peu par hasard. Ça m'a attirée, du coup j'ai fait plusieurs stages d'observation. Et du coup j'étais convaincue que ça allait me plaire et c'est pour ça que je me suis lancée dans la formation d'éducatrice spécialisée. Et travailler au CEMIS pour moi ça avait du sens, je trouve que l'aller vers c'est vraiment important. Et puis de pouvoir être dans une équipe pluriprofessionnelle avec un public dit de l'exclusion, enfin de lutte contre l'exclusion, c'était quelque chose qui m'attirait.
Et pour moi, effectivement, Pareillement, le public de l'exclusion est un public qui me parle énormément. Moi, j'ai commencé un petit peu à travailler à l'hôpital. J'ai toujours eu en tête de pouvoir travailler dans un SAMU social. Et j'ai appris qu'une place se libérait au SEMIS. J'y suis allé aussi pour découvrir. Et du coup, ça me plaît. Et comme le dit ma collègue Julie, le travail avec les travailleurs sociaux est vraiment très intéressant. Ça permet en fait une vue globale des personnes qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on ne suit pas une personne en tant qu'infirmier juste par rapport à une pathologie. On a le temps vraiment de s'arrêter et d'avoir d'autres prismes de professionnels autour de la personne. Et pour moi, c'est ce qui majeure l'accompagnement. Quand on parle de santé, on parle de santé d'un point de vue global. Ça comprend tout l'entourage et enfin, tout ce qui gravite autour de la personne, finalement.
Merci beaucoup. Vous restez avec nous, on continue cette locale.
Alors juste une toute petite info, parce qu'on est, voilà, c'est passionnant, donc on est un peu à la bourre. Les deux périodes de confinement ont permis de prendre conscience à quel point la fracture numérique n'était pas seulement une expression à la mode. Trop de personnes en situation de précarité n'ont ni formation à l'utilisation de l'informatique et encore moins accès à des ordinateurs, des smartphones, ou encore Internet. Face à cette réalité, plusieurs bénéficiaires de l'action passerelle bénévolat de l'ADAPT Drôme Ardèche qui accompagne des personnes au RSA dans une démarche de bénévolat, ont décidé de se mobiliser. Ils ont écrit à des entreprises afin de trouver du matériel informatique pour équiper les personnes suivies par ce dispositif. Précia Molène, un spécialiste du pesage industriel et commercial, a répondu favorablement à cet appel en faisant un don de 5 ordinateurs. Grâce à ce don, le collectif de bénévoles va pouvoir équiper plusieurs personnes formées lors d'ateliers numériques hebdomadaires mis en place à Valence et Montélimar en partenariat avec le comptoir des lettres et à Romans avec la maison de quartier Saint-Nicolas. L'autonomie dans l'utilisation des outils numériques est aujourd'hui indispensable, notamment dans les démarches administratives ou de recherche d'emploi. Être formé et équipé devient donc une nécessité. Bravo à l'entreprise et aux bénévoles qui ont fait de la démarche.
Et je vous propose maintenant d'écouter Mathilde, une scientifique qui, elle, sensibilise les enfants à la science. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Donc toi, on t'a connue par Facebook parce que tu organises des ateliers avec la structure que tu as créée, Pousse de Science. Peut-être qu'on peut commencer par présenter Pousse de Science.
Alors, Pousse de Science, c'est tout petit encore. C'est une jeune entreprise que j'ai créée il y a bientôt un an, un petit peu moins d'un an. Juste avant, j'ai ouvert mon statut d'entrepreneur 3 jours avant le début du confinement.
Le heureux hasard.
Voilà. Et en fait, je crée et j'anime des ateliers scientifiques et je crée aussi du contenu pédagogique.
Donc
pour les enfants, surtout.
Surtout pour les
voilà,
enfants.
Principalement.
Et ça ressemble à quoi ces ateliers ?
Alors l'idée d'un atelier scientifique, c'est par exemple, là pendant les vacances, j'ai eu l'occasion d'animer un atelier autour de fusées, de picofusées, donc des toutes petites fusées qu'on fait avec juste du papier et puis en propulseur une bouteille de plastique. Et donc l'idée, c'est que par le jeu, les enfants vont pouvoir appréhender tout ce qui est la physique du vol et comprendre, se mettre dans la peau de véritables astrophysiciens et d'ingénieurs de spatiaux. Donc voilà, c'est vraiment super. C'est vraiment se plonger dans le monde de la science, toujours par le jeu.
Peut-être que le ou la prochaine Thomas Pesquet sera passé par Pousse de Science alors.
Là, je serais très flattée. C'est aussi l'idée, évidemment, et d'où le nom aussi, c'est de semer des graines et puis accompagner les enfants pour qu'ils poussent, pour qu'ils fassent pousser et grandir leur curiosité qu'ils ont de façon très naturelle, leur enthousiasme pour absolument tout le monde qui nous entoure. Parce qu'au final, la science, c'est vraiment tout ce qui nous entoure. Donc, j'ai parlé d'astronomie d'espace, mais au final, on aborde des thèmes comme, je ne sais pas, les insectes, les plantes, mais aussi ça peut être le papier, tous les matériaux, l'air, l'eau, la nature en général, toutes les grandes lois physiques qui nous entourent et auxquelles on ne fait plus du tout attention.
Et la science, ça peut faire peur aussi à certaines personnes. On pense théorie compliquée, on pense mathématiques, on pense prise de tête, à ne pas comprendre ce qui se passe. Et toi, ton rôle, il est inverse, il est de rendre tout ça ludique, de trouver des jeux. Comment est-ce que tu t'y prends ?
Je sais pas, ça me vient de façon assez naturelle. Je pense que je suis vraiment une grande enfant. Après, j'ai une formation en sciences et j'ai toujours été depuis tout le temps été passionnée par la transmission des savoirs, par l'enseignement. J'ai enseigné à la fac, mais j'ai aussi enseigné un petit peu avec des enfants plus jeunes en primaire. J'ai beaucoup donné de cours à domicile. J'ai fait pas mal d'animation en général. Voilà, donc c'est quelque chose qui me porte depuis longtemps. Et en fait, avec tout, je dirais, mon bagage et mon goût, ma passion même, pour jouer au final, jouer, découvrir et trouver la façon la plus amusante d'apprendre au final. Parce que ce qui est absolument magique, c'est que plus on joue, plus on apprend facilement. Et surtout, plus ça reste et plus on sème des graines facilement surtout.
Et ces jeux, est-ce que tu les inventes ?
Alors j'en invente, j'en trouve sur Internet, je les adapte, je les développe. Voilà, c'est un peu au fil et au gré des thématiques que je recherche. Généralement, j'attrape une ficelle et je tire dessus, je déroule. Voilà, des fois j'ai des inspirations, des fois je dois creuser un peu plus. Après, un de mes credos aussi, c'est quand même d'essayer principalement d'utiliser du matériel que les familles pourront réutiliser chez eux. Mmh. Donc il y a beaucoup de matériaux recyclés. Et puis l'idée, notamment sur ma page Facebook, je partage énormément, enfin tous les mercredis, je partage une petite expérience à faire avec du matériel simple. Puisqu'il y a beaucoup de parents qui se disent, oh là là, un atelier scientifique ou même une expérience scientifique, ça va être sale, il va falloir beaucoup de matériel. Et en fait, pas forcément. Des fois, avec pas grand-chose, on peut faire plein de choses et surtout apprendre énormément.
Est-ce que tu as des exemples de matériel, par exemple, que les parents peuvent utiliser ?
Une bouteille, typiquement. Avec une bouteille, on peut faire tellement de choses. Une bouteille ou un élastique, des pics à brochettes, des cure-dents. Et puis même, je sais pas, du liquide vaisselle, j'en utilise dans plein d'expériences différentes. On peut par exemple extraire de l'ADN de banane avec du liquide vaisselle, donc en partie. Et voilà, on peut faire énormément de choses avec pas grand-chose au final.
Waouh, ça donne envie. Ouais. Et ce blocage de la science dont je parlais tout à l'heure, est-ce que toi, tu le remarques parfois dans ton quotidien ?
Ça dépend. Parfois, oui. Alors après, je fais deux types d'ateliers. Je fais des ateliers à destination des familles. Donc généralement, les enfants qui viennent, ce sont déjà des enfants qui sont passionnés, qui ont déjà le goût pour les sciences. Donc il n'y a pas du tout ce blocage-là. Mmh. Mais je fais aussi des ateliers avec des publics captifs. Donc par exemple, dans certaines maisons pour tous de Valence, où là, les enfants viennent parce qu'on leur propose l'activité. Et c'est vrai qu'ils peuvent avoir un peu plus d'appréhension en disant « ça va être un peu nul, voilà, comme tu as dit, on va faire des maths, des trucs comme ça ». Mais en fait, la plupart du temps, enfin tout le temps, j'ai envie de dire, ils repartent en me disant « c'était trop cool ». J'ai une petite fille qui est venue me voir la dernière fois en me disant « je pensais pas que j'aimais l'espace, que j'aimais l'astronomie, mais en fait, c'est trop génial, l'espace, j'adore
». Voilà. Ça fait du bien, ça, non ?
Ah ouais. De toute façon, c'est le plus beau des moteurs, des cadeaux. C'est le retour des enfants, des familles, des parents qui me disent « Oh là là, il est rentré, il nous a tout réexpliqué, il a tout refait à la maison. » Je fais « Waouh, trop bien. » Enfin, c'est pour ça que je le fais, d'ailleurs.
Mais oui, justement, je voulais en venir à ton parcours. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans la Drôme à créer ta structure pour enseigner la science aux enfants ?
Alors moi, donc, je suis docteur en neurobiologie. J'ai fait ma thèse en région parisienne, au CNRS. Et après ma thèse, j'ai travaillé un petit peu au CNRS en tant qu'ingénieur. Et après, j'étais un petit peu, on va dire, dépitée par l'ambiance globale de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui en France est un petit peu précaire. En tout cas, on doit attendre beaucoup d'années avant d'avoir un poste. Mmh. Et je pense que j'avais besoin de plus de stabilité. Donc, je me suis orientée vers un poste de responsable de secteur dans une association d'éducation aux sciences. Et ça m'a énormément plu. C'était vraiment super. Et après, avec ma famille, on a décidé, il y a 2 ans maintenant, de déménager dans la Drôme. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était le moment parfait pour me lancer à mon compte dans la vulgarisation scientifique et dans la transmission des sciences.
Et donc, tu proposes des ateliers, mais là, avec le confinement, comment est-ce que ça se passe pour toi ?
Alors, pour l'instant, les ateliers pour les enfants peuvent continuer. Et je propose aussi, en parallèle, des ateliers en visio. Donc ça, je les ai lancés en novembre dernier et ça marche hyper bien. Donc ça reçoit vraiment un super accueil. Il y a une forte demande. Je pense que les gens ont vraiment envie de faire autre chose, en tout cas, pour ceux qui restent chez eux. Et surtout, ça me permet de toucher un maximum de familles sur toute la France, mais aussi en Belgique, en Suisse. La dernière fois, j'avais une famille au Maroc. J'ai aussi des Québécois, beaucoup, qui me suivent sur Facebook. Donc voilà, c'est une autre expérience, mais c'est hyper riche et c'est super. Et je ne pensais pas qu'on pouvait passer autant à travers l'écran. Et en fait, c'est vraiment top.
Ça fait partie des choses, des surprises
ouais, voilà.
De notre adaptation.
C'est ça, exactement. Et ça, c'en est une belle. Après, c'est différent du présentiel. Et c'est deux choses, en tout cas dans mon activité, que je, pour l'instant, je vais garder. Mais ça n'ira pas. Je ne vais pas passer à la visio uniquement. Je ne pense pas créer une chaîne YouTube pour mettre à 100% là-dessus. Non. Le contact humain est trop important.
C'est sûr qu'en plus dans la transmission, d'autant plus. Oui. Puis les enfants, j'imagine que ça leur fait du bien aussi de toucher, voilà, de faire des choses.
Alors complètement, justement, c'est vraiment le cœur, je dirais, de la pédagogie des ateliers. C'est vraiment que les enfants soient acteurs de leur apprentissage et tout est dans la manipulation. Donc au final, c'est surtout pas un cours. C'est avant tout, ils viennent pour expérimenter avec leurs doigts, manipuler, comme des vrais scientifiques. En herbe.
Et tu proposes des vidéos, tu disais, une fois par semaine ?
C'est pas des vidéos, c'est juste des publications avec des photos.
Ok.
Je me suis pas encore lancée sur l'outil vidéo. Non, c'est une publication, des photos avec une petite liste de matériel, de ce qu'on peut faire. Et puis c'est une proposition et c'est super bien accueilli par mes abonnés toutes les semaines. Donc c'est chouette, c'est un rendez-vous que je vais garder, je pense. Donc ça, c'est pareil. Énormément de partage et énormément de bienveillance aussi avec les abonnés. Donc c'est aussi un lien que j'aurais pas soupçonné, mais qui est super chouette aussi.
Et comment est-ce qu'on peut te retrouver pour voir ces publications ou pour s'inscrire à tes ateliers ?
Alors, toutes mes publications sont à retrouver sur la page Facebook Pouce de Science. Donc pouce comme des petites pousses qui poussent. les ateliers, toutes les actualités des ateliers sont aussi à retrouver sur la page. Je suis aussi joignable par mail sur poussedescience@gmail.com. Voilà. Et puis vous pouvez me contacter soit sur Facebook ou par mail pour vous inscrire aux ateliers. Donc là, dans la Drôme, je fais des ateliers sur Valence, sur Chabeuil, sur Portes-les-Valences. Et puis, peut-être bientôt dans d'autres lieux partenaires, en fonction de comment Pouce de Science va grandir.
Et ça coûte combien ?
Alors, un atelier, il y a deux formats. Il y a un atelier d'une heure, c'est le format Club de Science qui coûte 15 euros. Il y a le format deux heures qui coûte 20 euros en tarif découverte, puis 25 euros par enfant.
Super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Non, merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt alors. Merci à toi d'être venue.
Merci à toi.
Un petit tour du côté de la culture. On aime bien quand même faire un clin d'œil quotidien à la culture. Et là, cette fois-ci, c'est à la cordonnerie à Romans. La Cordo, comme toutes les salles de spectacle, reste fermée et donc annule tous les concerts et workshops prévus en mars. Mais le travail continue. Et la Cordo accompagne Ghislain N sur des ateliers d'écriture avec deux classes de seconde au lycée Saint-Maurice Notre-Dame-des-Champs. On pourra découvrir le résultat le 9 avril à la Cordo en souhaitant que ça réouvre. Action culturelle donc, mais aussi résidence d'artistes sur la semaine du 8 au 11 mars. Ce sera le Dan Garibian Trio qui peaufinera son nouveau projet scénique pour la sortie de son nouvel album dans la grande salle. Nous aurons d'ailleurs le plaisir d'accueillir en studio le trio qui nous fait voyager entre Tsigani, Arménie, Russie et Grèce. Et toujours sur cette même semaine, à la Cordo, Paranda Close, un groupe qui nous emmène dans les traditions de Barlovento, sera en enregistrement au studio de la Cordo. Enfin, la Cordo est partenaire de Jazz sur le Grill, une édition hyper light cette année, mais qui conserve son ADN, à savoir un artiste invité qui se produit sous différents formats et créations dans différents endroits du territoire. Cette année, c'est Sandra Nkake qui est l'invitée de Jazz sur le Grill, et on est bien triste de ne pas pouvoir profiter de ses prestations en live, mais un projet a été conservé avec un concert avec le Jazz Contrebande. À cette occasion, Pascal Bern qu'on entend souvent chez nous, s'est emparée du répertoire de Sandra Nkake pour des arrangements pour l'orchestre Jav Contrebande. Le concert est enregistré ce samedi au Théâtre de la Ville de Valence et sera diffusé le 9 mars à 19h. Bien entendu, on en reparlera à ce moment.
Merci beaucoup Sylvie pour les informations locales. Et maintenant, nous sommes au téléphone avec Marie Israël, responsable communication de l'association Village Vivant. Bonjour Marie.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va plutôt bien, en plus le soleil est là.
Effectivement, il rentre par la fenêtre du studio et ça fait du bien. Donc Marie, peut-être qu'on peut commencer par présenter Village Vivant pour les auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas.
Oui. Alors en fait, Village Vivant, c'est ce qu'on appelle une foncière rurale et solidaire, c'est-à-dire qu'en fait, on achète, on rénove et on loue des locaux pour installer des lieux et des activités qui viennent ramener de la ville dans les villages et les campagnes. On installe plutôt des activités qui sont du côté de l'économie sociale et solidaire, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller ramener de l'impact social, du lien social entre les habitants et de casser aussi le phénomène de spéculation sur l'immobilier.
Donc en fait, si quelqu'un a un projet qui pourrait correspondre à vos valeurs, vous allez le soutenir pour l'aider à s'installer?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, on est constamment les oreilles bien ouvertes. Et si jamais les personnes qui nous entendent ont un projet qui vient ramener du lien social entre les habitants. Après, ça peut être aussi une épicerie. Hein. Une épicerie, c'est un service de proximité qui est un service et dans là où il se passe aussi quelque chose. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Parce qu'effectivement, bien souvent, les porteurs de projets, ils ont des superbes idées, mais ils sont bloqués par l'accès à l'immobilier.
Le lien social, justement, c'est ce qui nous manque en ce moment encore plus.
Oh là oui.
Donc, vous êtes d'autant plus important. Est-ce que tu aurais des exemples de projets qui sont en cours pour qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit ? Donc, tu parlais d'épicerie et j'imagine qu'il y a plein d'autres choses.
Eh ben récemment, c'est un projet qui a duré longtemps, donc on est vraiment très content qu'ils aient pu ouvrir au moins une partie. C'est en Ardèche, dans le village de Beaufre. C'est un collectif qui s'est monté en SCOP, en société coopérative, et qui a ouvert une épicerie, alors aussi café-restaurant. Ça, l'essentiel de l'activité, c'est café-restaurant, mais pour l'instant, ils ne peuvent malheureusement pas ouvrir. Et ils ont aussi une partie épicerie, dans un village où il y avait plus qu'un ou deux commerces. Donc là, en fait, ils sont venus nous solliciter parce qu'ils avaient identifié une ancienne auberge qui, en plus, est assez centrale dans le village. Et on l'a rachetée, rénovée, pour qu'ils puissent installer leur activité. Et puis, ils vont d'ailleurs continuer à la développer, cette activité, parce qu'ils vont aussi ouvrir un espace de coworking.
Et donc, concrètement, au niveau des aides que vous apportez, quelles sont les différentes aides qu'on peut trouver auprès de vous ?
En fait, déjà, le principal objet, c'est l'achat du bien immobilier. Donc, en fait, le porteur de projet se dégage un petit peu de cette partie. Donc, on achète, on rénove, on loue. Ensuite, on est sur des loyers progressifs pour que la personne ne soit pas trop écrasée au début de son activité par le loyer. Et on a aussi un système d'accompagnement avant, pendant et après en fait l'installation, parce que le but, c'est pas que la personne elle se plante au bout de 3 mois, quoi. C'est vraiment de pouvoir l'entourer un peu dans tous les domaines. Je sais pas, ça peut être le côté financier, définir ses prix, ça peut être aussi le côté communication. Donc on les accompagne sur un peu à 360 degrés.
Et là, ça doit tout changer pour vous, la crise sanitaire, avec tous les restaurants, bars qui ferment pour différents projets que vous accompagnez.
Alors ouais, c'est vrai que ça change pas tout. On a la chance d'être bien soutenus, mais forcément, en fait, ce sont les porteurs de projets qui sont impactés. Typiquement, par exemple, là récemment, on a racheté un local pour une brasserie artisanale dans la Drôme. Ils font de la bière en vrac, ils vendent essentiellement au café-restaurant, ils prennent la crise de plein fouet. Mais souvent, en fait, ce sont aussi des activités qui sont plurielles, c'est-à-dire qu'elles ont un volet, comme par exemple le café-restaurant à Beauf, mais elles ont aussi l'épicerie. ou la bière en vrac, ils vendent aussi au particulier. Donc ça fait une petite soupape, je dirais. Mmh. Mais oui, forcément, ça impacte les activités.
Oui, au final, grâce à votre aide aussi, j'imagine, ils peuvent continuer là où ils se seraient peut-être écrasés financièrement tout seuls.
Ben, j'espère vraiment, après on ne prétend pas du tout avoir la solution miracle, et puis ça dépend vraiment des activités, c'est-à-dire que par exemple, on a participé à l'achat d'une librairie coopérative dans l'Ain à Trévoux, et à leur très grande surprise, ils ont très très bien marché pendant le confinement avec le fameux click and collect. Donc, ils n'ont même pas accepté les facilités de règlement de loyer en fait, ils ont pu payer. Et puis, mais c'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Mais ce qu'on remarque, c'est que ce sont des gens qui sont souvent, qui sont plusieurs dans l'équipe, hein, c'est des collectifs, et qu'ils sont un peu plus costauds quand même en étant à plusieurs.
Et tu parlais de spéculation, l'immobilier, c'est vraiment un problème un peu partout, cette spéculation immobilière. Vous renversez complètement les choses avec l'immobilier solidaire ?
Oui, en fait, la spéculation, effectivement, elle existe partout, avec en plus, dans le problème des campagnes, le fait que les investisseurs, ils ne sont pas intéressés, parce qu'en fait, ils ne vont pas gagner d'argent. Donc, plus personne ne vient mettre de l'argent dans les campagnes. Et puis, on voit bien hein, que les prix de vente sont un peu démesurés, parfois les loyers, et donc, quelque part, il n'y a pas de solution. Et nous, notre solution, c'est finalement de... Ça vient un peu amener ce qu'on appelle le bien commun, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui investissent dans Village Vivant, qui, quelque part, par notre intermédiaire, viennent racheter des boutiques et les remettre en circuit. Et puis nous, on a un système de société et des statuts qui font que on ne peut pas spéculer, faire de l'argent comme ça sur les biens qu'on achète et sur leur revente surtout.
Et quelles sont les tendances à la, tu parles des endroits ruraux, est-ce que ça continue à se vider ou est-ce que vous voyez un retour à la terre? Parce qu'on entend aussi beaucoup parler de ça, de personnes qui ont envie de retourner dans des petits villages.
Oui, il y a effectivement ce phénomène d'arrivée de citadins dans les campagnes. Je pense qu'on le voit un petit peu partout. Après, je pense que c'est très inégal sur le territoire. Je pense que dans la Drôme, c'est beaucoup le cas. Mmh. Et c'est des gens qui viennent aussi parfois créer leur entreprise. Mais c'est vrai que là, avec le phénomène du confinement et du couvre-feu, on a encore un petit peu du mal à le voir en termes de développement d'activité sur le territoire.
Marie-Cécile,
l'appareil.
Bonjour Marie. Juste une question. Vos démarches, est-ce qu'elles sont parfois initiées par des communes qui vous prennent contact avec vous en disant on a tel bâtiment sur la commune, nous on peut pas investir, mais on aimerait bien qu'il y ait une épicerie qui perdure ou qui se remonte ou un lieu de vie qui se remonte. Est-ce que ça arrive de cette manière là, ou est-ce que ce sont uniquement les porteurs de projets?
Alors, en fait, nous, on travaille avec des collectivités, des communes, des communautés de communes qui viennent nous solliciter pour, par exemple, les aider à réinvestir leurs boutiques vides. On n'a pas encore eu le cas de racheter pour une commune, mais on aimerait vraiment être aussi un outil pour eux. Parce que... On vient aussi parfois travailler avec les communes sur la recherche d'un porteur de projet et sur une installation d'activité qui serait vraiment utile à un endroit précis et qui ne serait pas forcément utile dans un autre endroit. Donc, il faut vraiment bien connaître l'endroit où on travaille. Mais oui, les collectivités, elles sont capitales dans ces démarches-là.
Et si on veut bénéficier de votre aide, comment est-ce que ça fonctionne? À qui est-ce que ça s'adresse? Et comment vous retrouvez, vous contactez?
Alors, nous, on a un truc qui fonctionne pas mal. C'est qu'en fait, tous les 15 jours, il y a une personne chez nous qui s'appelle Anne-Sophie et qui travaille avec Élodie qui organise des visioconférences et des réunions d'information en ligne. Donc, tout est indiqué sur notre Facebook et sur notre site Internet. Donc, les gens viennent à ces visioconférences. On présente Village Vivant. Comme ça, les gens savent si on peut ou pas être partenaire. Et ensuite, les personnes... présentent leurs projets et leurs problématiques. Et par ce biais-là, on identifie des projets qu'on va accompagner, pour qui on va acheter un local. Et puis parfois, on va être qu'un relais d'information. Mais c'est un système qui fonctionne bien.
Et qui a été à l'initiative de la création de Village Vivant ?
Alors, l'idée, elle est née dans la tête de Sylvain Dumas, qui est co-gérant de Village Vivant. Aujourd'hui, ils sont deux, c'est Raphaël et Sylvain. Et en fait, Raphaël et Sylvain, ils ont participé à la création d'un tiers-lieu à Cré qui s'appelle l'Usine Vivante. Mmh. Et c'est vraiment en participant à cette démarche qu'ils se sont rendus compte que dans les campagnes et villages, il y avait beaucoup d'initiatives innovantes, mais que malheureusement, elles étaient bloquées par l'immobilier et par ce phénomène de boutiques vides qui fleurissaient partout dans les villes et villages, quoi. Et ils ont vraiment voulu faire matcher les deux, les initiatives et les boutiques vides.
Merci beaucoup Marie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Alors oui, ce que je pourrais ajouter, c'est que comme en fait on est financé par les citoyens et les entreprises, on mène régulièrement des collectes de fonds et bientôt on va rouvrir une collecte de fonds pour les citoyens qui veulent pas non pas faire un don, mais investir dans Village Vivant, c'est-à-dire qu'ils nous prêtent l'argent pendant 7 ans et puis ensuite on leur rend avec des intérêts qui ne sont pas énormes, mais des petits intérêts quand même.
Donc comment est-ce qu'on peut participer à cette collecte ?
En fait, en général, on le fait bien savoir, notamment sur les réseaux sociaux, notre site internet et par l'intermédiaire de la presse. Mais on a un site internet, c'est www.villagevivant.com, Village Vivant tout attaché et au pluriel. Et là, on le fera bien savoir.
Parfait. Merci beaucoup, Marie.
Merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Alors, est-ce que vous vous posez des questions sur votre orientation ? Eh bien, si c'est le cas, vous êtes peut-être tenté par un parcours européen. On vous propose, Michel Rivasi, pardon, vous propose une rencontre Zoom. Michel Rivasi, députée européenne du groupe Vert Alliance Libre Européenne, mercredi 3 mars à 18h. Elle vous présentera son parcours et répondra à vos questions dans un cadre convivial et informel, nous dit-on. C'est formidable. Trêve de plaisanterie. Cet événement s'inscrit dans le cadre de Parcours Europe qui permet à des étudiants et étudiantes en formation à vocation européenne de rencontrer des professionnels qui travaillent dans l'environnement européen. Pour préserver la qualité des échanges, l'événement Zoom est limité à une vingtaine de participants et participantes. Donc, il faut vraiment s'inscrire assez rapidement. Cette rencontre est organisée par la Maison des Européens Lyon, Centre d'information Europe Direct Lyon et le Centre d'information Europe Direct Drôme-Ardèche. Alors, rendez-vous sur le Facebook de l'un de ces trois partenaires pour vous inscrire. Et puis, Carina, on va terminer avec la bonne nouvelle du jour.
Je me demandais ce que ça pouvait bien être.
Ah, alors, j'en ai trouvé une vraiment très, très courte. Et qui date du 9 février, le Zimbabwe a banni mardi 9 février toute exploitation minière des réserves naturelles du pays suite à au projet d'un site d'une société chinoise d'ouvrir une mine de charbon dans le plus grand parc protégé du pays. Donc bravo au Zimbabwe qui montre l'exemple que bien d'autres devraient suivre.
Oui, c'est incroyable comme bonne nouvelle ça, merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes et je me suis dit que Nils a posé une question tout à l'heure pendant une pause. Et peut-être que ça pourrait être intéressant que tu la reposes pour les auditrices et auditeurs qui n'ont pas pu t'entendre.
Comment les personnes en précarité, elles peuvent se retrouver dans la rue ?
Est-ce que vous pouvez...
Et du coup, la réponse qu'on a essayé d'apporter à Nils tout à l'heure, c'était de dire que c'était souvent multifactoriel, que c'était différent pour chaque situation, mais que régulièrement, c'était dû à des ruptures dans le parcours de la personne, des ruptures familiales, suite à, par exemple, des disputes conjugales ou à un décès dans l'entourage de la personne. Ça pouvait être également un glissement suite à une perte de travail, suite à des troubles de la santé mentale ou une addiction qui prenait trop le pas sur le reste de la vie d'une personne. C'est difficile d'apporter une réponse... Une réponse à cette question parce que c'est vraiment propre à chaque personne.
Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Simplement dire qu'on était contents d'avoir pu parler un petit peu des personnes dites invisibles et d'avoir pu présenter notre service et vous remercier pour l'émission.
Avec plaisir. Nous, on était très contentes de vous recevoir et c'était même bien trop court pour nous, donc on va essayer de vous réinviter.
On peut peut-être redonner donc, le 115 et est-ce qu'il y a un autre numéro de téléphone ou est-ce que c'est le 115
Le 115, c'est le plus facile à retenir. Et puis après, sinon, on peut nous contacter, par téléphone. Du coup, c'est au 06 19 55 46 90. Mais c'est sur, du coup, des horaires de journée et le week-end, il vaut mieux privilégier le 115.
Très bien. Oui, merci. C'est normal.
Merci Julie, merci Quentin.
Merci à vous.
Merci à vous deux et merci Nils.
Merci Carina. Merci à tous. À la suite des programmes à 13h, Cause de nous, 17h, la radio dans le pédalo, 18h, la locale, 19h, Blues Café Live et le direct de l'oreille électrique à 20h.